السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Donc بإذن الله nous allons reprendre l'explication del fiqh al-muyassar, le fiqh simplifié. Donc il y a un livre qui à la base a été compilé par un groupe de savants, donc sous la supervision de Cheikh Saleh Aïcher Hafidhahullah Ta'ala. Donc c'est un livre, alhamdulillah, qui est assez simple et qui a été écrit pour les débutants. Et comme ça fait longtemps qu'on n'a pas donné cours, bismillah, on va recommencer du début, comme ça, ça profite à tout le monde et c'est une révision, inshallah. Et pour les nouveaux, ce sera également profitable. Donc ici, ils nous disent « Awwalan kitab al-tahara ». Le premier chapitre que nous allons voir, c'est donc le chapitre de la purification. « Wa yajtamilu ala asharati abwabin ». Donc il comprend, ce chapitre comprend 10 autres, donc 10 autres chapitres. On va dire le livre de la purification, et ce livre comprend 10 autres chapitres. Al-bab al-awwal fi ahkam at-taharati wal-miyah. Le premier chapitre concerne donc le jugement de la purification ainsi que de l'eau. Le premier point, في التعريف بالطهارة وبيان أهميتها وأقسامها. Le premier point que nous allons voir concerne donc l'importance de la purification et ses différentes catégories. أهمية الطهارة وأقسامها. الطهارة هي مفتاح الصلاة وآكد شروطها. والشرط لابد أن يتقدم على المشروط. La purification est la clé de la prière et la plus importante des conditions. Et la condition précède inévitablement ce qui est conditionné. C'est-à-dire que la personne, yani pour que sa prière soit valide, elle doit obligatoirement être en état d'ablution. وَالطَّهَارَةُ عَلَى قِسْمَيْنِ الْقِسْمُ الْأَوَّلْ طَهَارَةٌ مَعْنَوِيَّةٌ وَهِيَ طَهَارَةُ الْقَلْبِ مِنَ الشِّرْكِ وَالْمَعَاصِ وَكُلِّ مَا رَانَ عَلَيْهِ وَهِيَ أَهَمُ مِنْ طهارة البدن ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك كما قال تعالى إنما المشركون نجس والقسم الثاني الطهارة الحسية. Donc ici l'auteur nous dit que la purification est de deux sortes. Une purification qu'on dit abstraite, qu'on appelle الطهارة المعنوية. Et elle consiste à purifier le cœur du shirk, des péchés et de tout ce qui peut le corrompre. Et elle est plus importante que la purification du corps. Et cette dernière ne peut être concrétisée avec la présence de l'impureté du shirk. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, traduction du sens du verset, les associateurs ne sont qu'impureté. Et la deuxième sorte de purification est la purification concrète. Et son explication viendra dans les lignes suivantes. Donc ici, l'auteur nous dit الطهارة الحسية تعريفها وهي في اللغة النظافة والنزاهة من الأقذار. La purification ici dans la langue arabe veut dire la propreté et l'exemption de toute souillure. Quant à la terminologie religieuse, il nous dit wa raf'u al-hadathi wa zawalu al-khabathi. Donc c'est le fait de se purifier de al-hadath que nous allons voir maintenant. C'est quoi al-hadath? Donc c'est l'état d'impureté, c'est un état, ainsi que l'enlèvement de la souillure. Et ici il y a ikhwan fa'ida pour les talabat al-ilm. Pourquoi ici l'auteur a dit raful hadath et il a pas dit irtifaul hadath, et il a dit zawalu al khabath et il a pas dit izalatul khabath? Ici c'est très important. Et il y a une faïda ici pour les talabat al-ilm. Ici, parmi ce qu'ils ont dit les ulama, c'est qu'ils ont utilisé raf' al-hadath car cela nécessite une intention et une action. C'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle perd ses ablutions, par exemple, elle défèque ou bien elle urine, alors à ce moment-là, elle rentre dans un état d'impureté mineur, qu'on appelle hadathun asra. Cet état d'impureté mineur, il doit l'ôter en faisant quoi ? Ses ablutions. Et ces ablutions-là, elles nécessitent quoi ? Une intention et des actes. Donc c'est pour ça qu'on dit raf'u al-hadathi. Parce que si on avait dit yartifa'u al-hadathi, ça implique qu'il n'y a pas besoin d'intention et d'actes. Donc vous voyez que c'est très subtil. Ensuite il dit wa raf'u al-khabathi. Wa zawalu al-khabathi. Il ne dit pas wa izala. Car al-khabath, qui est en réalité al-khabath, c'est la souillure en elle-même. Comme l'urine, on va dire que c'est une najasa, une impureté, une souillure. Et donc le fait ici d'enlever cette impureté ne nécessite ni d'action ni d'intention. On va donner un exemple. Par exemple, on a une personne qui... donc on a déjà donné l'exemple de Raf al-Hadath. Ça, on a déjà donné. Une personne qui perd ses ablutions. Donc si elle veut prier et faire ses ablutions, elle doit avoir l'intention et faire l'acte, les actes. Quant à celui maintenant qui voit, yani, il s'aperçoit qu'il a une impureté qui vient de, par exemple, de tomber, de l'urine qui vient de tomber, par exemple, sur son vêtement. Et bien maintenant, si cette personne-là tombe dans une piscine, sans mettre l'intention d'enlever cette impureté, et sans faire un acte non plus, yani avoir l'intention de le faire, eh ben si elle sort de cette piscine et que cette impureté-là s'est enlevée, eh ben on va dire que son vêtement est pur et il peut prier avec. Même si à la base, il n'avait pas l'intention de quoi ? D'enlever cette impureté-là. Parce que ici, le fait d'enlever une impureté d'un vêtement, c'est... Donc, ça ne demande pas d'intention. Et c'est ça la différence entre ces deux choses-là. Donc pour redonner un exemple maintenant, si par exemple il y a une personne qui a une souillure sur lui, comme de l'urine ou autre, et qu'il tombe dans une flaque d'eau ou autre, et que la base de la souillure s'enlève, on dira que son vêtement est propre et qu'il peut prier avec, même s'il n'a pas mis l'intention de le nettoyer. Donc l'acte et l'intention ne sont pas une condition concernant l'enlèvement de la souillure, contrairement au fait d'enlever l'impureté mineure ou majeure. Donc ça, c'est quelque chose, je crois, qu'il faut que vous notiez, bismillah. Ensuite, ici, l'auteur nous dit « وَالْمُرَادُ بِارْتِفَعِ الْحَدَثِ إِزَالَةُ الْوَصْفِ الْمَانِعِ مِنَ الصَّلَاةِ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فِي جَمِيعِ الْبَدَنِ إِنْ كَانَ الْحَدَثُ أَكْبَرُ وَإِنْ كَانَ حَدَثًا أَصْغَرُ يَكْفِي مُرُورُهُ عَلَى أعضاء الوضوء بنية وإن فقد الماء أو عجز عنه استعمل ما ينوب عنه وهو التراب على الصفة المأمور بها شرعا وسيأتي ذكرها إن شاء الله في باب التيمم. Ce qui est voulu ici par le fait de se purifier de al-hadath, al-hadath, ya ikhwa, c'est un... On va reprendre. La différence entre al-hadath et al-khabath, c'est que le hadath, c'est un état d'impureté qui empêche d'accomplir la prière. Ou ce pourquoi le wudu est obligatoire. Yani la purification. Par exemple, on va dire que la personne qui est en état de pureté, d'ablution, et ensuite elle urine, on va dire qu'elle est en état d'impureté mineure, en état de hadath asrar. Tandis qu'el-khabeth, c'est la souillure en elle-même. Par exemple, l'urine. L'urine, on va dire que c'est une najasa. Et c'est ça la différence entre les deux choses. Bismillah, j'espère que c'est compris, parce que ces termes, ils vont revenir souvent par la suite. Donc ce qui est voulu ici par se purifier de l'hadath, c'est-à-dire l'impureté, l'état d'impureté, c'est d'enlever cette caractéristique qui empêche d'accomplir la prière en utilisant l'eau sur tout le corps si c'est une impureté, si c'est une grande impureté. C'est-à-dire ici, on parle de rousl. Et si c'est une petite impureté, il suffit de passer sur les membres concernés par les ablutions, en mettant l'intention. Et s'il n'y a pas d'eau ou qu'il est en incapacité de l'utiliser, il utilise ce qui la remplace, c'est-à-dire la terre, de la manière qui a été légiférée. Et sa mention viendra dans le chapitre du tayammum.
وَالْمُرَادُ بِزَوَالِ الْخَبَثِ اَيْ زَوَالُ النَّجَاسَةِ مِنَ الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ وَالْمَكَانِ.
Ce qui est voulu ici par le fait d'enlever la souillure, c'est-à-dire al-khabath, al-najasa, c'est le fait d'enlever la souillure présente soit sur le corps, soit sur l'habit, soit sur l'endroit sur lequel on va prier, par exemple. Il nous dit ensuite وَالْحَدَثُ عَلَى نَوْعَيْنِ. Non, فَالْتَهَارَةُ وَالْحِسِّيَّةُ عَلَى نَوْعَيْنِ. طَهَارَةُ حَدَثٍ وَتَخْتَصُ بِالْبَدَنِ وَطَهَارَةُ خَبَثٍ وَتَكُونُ فِي الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ وَالْمَكَانِ. Donc ici, la purification concrète se divise en deux catégories. Il y a donc le fait de se purifier du hadath, qu'on a dit que c'était un état d'impureté, et cela est propre au corps. وَطَهَارَةُ خَبَثٍ, c'est-à-dire la purification d'un najas et d'un khabath, la souillure, qui peut se trouver sur trois choses, ou sur le corps, ou sur le vêtement, ou sur l'endroit sur lequel on prie, par exemple.
والحدث على نوعين, حدث أصغر وهو ما يجب به الوضوء وحدث أكبر وهو ما يجب به الغسل.
Donc ici, الحدث, l'état d'impureté, se divise en deux catégories, elle aussi. Il y a al-hadath al-asghar, qui est l'impureté mineure, ce qui rend les ablutions obligatoires, et al-hadath al-akbar, qui est l'impureté majeure, c'est celle qui rend le lavage rituel, c'est-à-dire le ghusl, obligatoire. Donc, on a compris maintenant la différence entre al-hadath al-khabath. Ici maintenant, Al-Khabath se divise aussi en deux catégories. Il y a ce qu'on appelle, donc quand on parle Al-Khabath, Al-Najasa, c'est la même chose. Al-Najasa Tul-Ainiya, c'est donc l'impureté inhérente, c'est celle qui, par exemple, qui ne peut être enlevée. Comme par exemple l'impureté du porc. Le porc, même si on le nettoie pendant 72 heures, il va rester impur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une impureté. Une najasa ainiya. Ensuite, on a une najasa hukmiya. C'est celle qui prend le jugement de ceci. Et c'est quand des impuretés touchent un endroit propre. Par exemple, un vêtement, le corps ou un endroit. Donc, on a une najasa ainiya. C'est une chose qu'on ne peut pas enlever. Et ni on ne peut pas la nettoyer. Comme par exemple le porc. Et une najasa hukmiya, c'est des impuretés qui touchent un endroit propre, et on a mentionné, c'est soit un vêtement, soit le sol, ou soit le corps. Ensuite, il nous dit وَالْخَبَثُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ خَبَثٌ يَجِبُ غَسْلُ وَخَبَثٌ يَجِبُ نَضْحُ وَخَبَثٌ يَجِبُ مَسْحُ. Donc une saleté et une souillure qu'on est obligé de laver. Donc ici, la souillure est de trois sortes. Une souillure qu'il est obligé de laver, une souillure qu'on est obligé d'asperger, et une souillure qu'on est obligé d'essuyer. Donc pour revenir ici et pour donner un résumé de ce qu'on a vu, c'est qu'al-hadath se divise en deux catégories. Il y a al-hadath al-asghar ou al-hadath al-akbar. Al-hadath al-asghar, c'est l'impureté mineure, c'est celle qui rend les ablutions obligatoires. Al-hadath al-akbar, c'est l'impureté majeure qui rend obligatoire al-ghusl. Et al-khabath, c'est al-najasa, c'est-à-dire la souillure en elle-même. Donc nous pouvons dire, et je crois que
Parmi les différences entre le hadath et le khabath, on peut mentionner, et je crois ici c'est important, min fadlikum, il faut rakkaza avec moi. Donc la première différence entre le hadath et le khabath, c'est que le hadath nécessite une intention, tandis que le khabath ne nécessite pas une intention. Et ça, on avait donné l'exemple. Par exemple, celui, si maintenant on a une personne qui perd ses ablutions, pour refaire ses ablutions, elle a besoin de quoi ? De mettre l'intention. Tandis que si maintenant une personne est touchée par une impureté, comme par exemple l'urine ou autre, sur son vêtement, même s'il tombe dans l'eau sans avoir l'intention de nettoyer cette impureté, s'il sort de cette eau-là, de cette piscine par exemple, on va dire que son vêtement est propre et il peut prier avec. Deuxièmement, parmi les différences, la deuxième c'est le fait d'enlever el-hadath se fait sur des membres spécifiques. Par exemple, el-wudu, comme les membres spécifiques pour les ablutions. C'est-à-dire les bras avec les mains, le visage, le fait de passer avec les mains mouillées sur la tête et les pieds. Ou bien, pour les ablutions, comme les ablutions majeures, c'est-à-dire le rousl, à ce moment-là, c'est tout le corps qui est concerné par cela. Quant à l'khabath, il suffit que la base de la souillure soit enlevée. Par exemple, si maintenant on a de l'urine sur un vêtement, et on passe avec de l'eau et que la base de cette souillure-là est partie, donc alhamdoulilah, on peut dire que ce vêtement-là est propre. Parmi la troisième différence, c'est que, et ça c'est un sujet important, Yahya, comme ça après on ne devra pas se répéter, Inch'Allah, et vous allez comprendre ce qui vient par la suite. C'est que l'enlèvement, le fait d'enlever le hadath, ne peut se faire qu'avec de l'eau. Yahya, par exemple, tes ablutions, tu ne peux le faire qu'avec de l'eau. Ou ce qui la remplace comme la terre pure. Quant à el-khabath, l'avis prépondérant, comme l'ont mentionné les savants, c'est l'avis de l'imam Abi Hanifa, rahimahullah, et c'est l'avis qui a été considéré comme prépondérant par Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ainsi que Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymiyyah et d'autres parmi les savants. Ils ont dit que quand el-khabath, l'avis prépondérant, c'est qu'il s'enlève avec toute substance pure qui enlève la base de l'impureté. Et ça, c'est important, Yahya. Parce que la majorité des savants, ils disent que el-khabath, c'est-à-dire la souillure, ne s'enlève qu'avec de l'eau. Tandis que el-ahnaf, eux, ils disent non. Ils disent que donc chaque substance pure donc qui enlève la base de l'impureté, alors on peut enlever cette impureté-là et cette souillure-là avec cette substance-là. Et donc, cela peut être du dreft, par exemple. Ceux qui sont, par exemple, la majorité des savants, ils vont dire que ça, c'est pas de l'eau. Ils vont dire que ça, c'est du dreft. Donc, automatiquement, ça ne va pas enlever la souillure. Tandis que chez les ahnaf, et c'est la vibi ni la prépondérant, ils disent, naam, ça, c'est une substance qui est pure et qui purifie, qui va enlever cette souillure. Mais ne comprenez pas par cela, comme on a dit, Yahya. C'est-à-dire qu'ici, on parle le fait d'enlever la souillure. N'allez pas après à la maison et faire l'eau avec du dreft. Là, c'est pas le mourad. Ici, on parle de quoi ? D'enlever la souillure. On a dit que les ablutions, on peut les faire seulement avec de l'eau ou ce qui la remplace si on ne peut pas utiliser l'eau, c'est-à-dire la terre. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, il dit, le fait d'enlever l'impureté n'est pas un acte d'adoration en soi. C'est-à-dire qu'elle n'est pas une adoration intentionnelle. Naam, le fait maintenant de faire les ablutions, c'est une adoration ou pas ? Naam, c'est une adoration. Le fait d'enlever une souillure, est-ce que c'est une adoration ou pas ? Là, c'est pas une adoration. Donc, le fait d'enlever l'impureté consiste simplement à se débarrasser d'une substance impure, quel que soit le moyen utilisé pour éliminer l'impureté, tant qu'elle disparaît ainsi que ses traces. Et cela est considéré comme purificateur, que ce soit avec de l'eau, de l'essence ou tout autre produit, yani pur. Ainsi, dès que l'impureté disparaît par n'importe quel moyen, cela est considéré comme purificateur. Selon l'avis prépondérant choisi par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Même si l'impureté disparaît par l'effet du soleil ou du vent, l'endroit est considéré comme purifié. Car comme je l'ai dit, il s'agit d'une substance impure qui rend l'endroit impur tant qu'elle est présente. Mais dès qu'elle disparaît, l'endroit retrouve son état originel de pureté et tout ce qui permet d'enlever l'impureté et cette trace, à l'exception d'une couleur persistante impossible à enlever, et est considéré comme purificateur. Par conséquent, nous disons que si la vapeur utilisée pour nettoyer les vêtements permet d'éliminer l'impureté, elle est alors considérée comme purificatrice. Maintenant, je vous pose la question, Yéhoua. Si maintenant quelqu'un ne trouve pas d'eau, est-ce qu'il peut faire, par exemple, les ablutions avec du thé ? Là. Pourquoi ? Parce qu'on a dit que pour les ablutions et pour enlever le hadath, on doit obligatoirement utiliser quoi ? De l'eau. Et maintenant, si la personne, par exemple, n'a pas d'eau, et elle n'a que du thé devant lui, par exemple, est-ce qu'elle peut utiliser ce thé-là pour enlever une souillure, par exemple une trace d'urine, sur son vêtement ? Oui. Selon l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen, de Cheikh Islam et de Ahnaf. Kayfa la ? Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit qu'on pouvait enlever les souillures avec toute substance pure. Le thé, il n'est pas pur, eh, quoi. Toi, tu le bois, le thé. C'est pas de l'alcool. Même si on est... Non, si on ne va pas rentrer dans le sujet de l'alcool, c'est vrai, est-ce que c'est pur ou c'est impur c'est... Mais ici, le cheikh, pour bien comprendre, eh, quoi, c'est que, selon l'avis d'Ahnaf, c'est que le fait d'enlever une impureté, une souillure, c'est pas une adoration. Donc, on peut l'enlever avec toute substance pure qui élimine cette souillure. Donc si la personne trouve autre chose que de l'eau, elle peut enlever cette impureté avec autre chose que de l'eau. Même si l'avis ici, on va voir que dans ce livre ici, ils sont d'avis qu'on ne peut pas enlever El Khabeth avec des substances, par exemple, autres que l'eau, ou bien on va dire avec des substances qui n'ont plus le nom de l'eau. Mais ça, on va le voir par après. Mais ici, maintenant, vous savez, bidnillah, c'est quoi la vie qu'on choisit, nous. La quatrième différence, c'est que celui qui prie en état d'impureté, et celle-ci, elle est importante, je crois. Celui qui prie en état d'impureté, c'est-à-dire qu'il n'a pas ses ablutions, par exemple, et qui se souvient après d'avoir prié qu'il n'avait pas ses ablutions, il doit refaire obligatoirement sa prière. Par exemple, si on a une personne... Elle a prié Dhuhr. Après avoir terminé Dhuhr, elle vient de se rappeler qu'elle était en état d'impureté mineure. Eh bien, lui, à ce moment-là, on lui dit, tu dois recommencer ta prière. Tu dois recommencer ta prière. Quant à celui qui s'aperçoit après sa prière qu'il avait une souillure, par exemple, sur son vêtement ou autre, à ce moment-là, lui, il ne doit pas refaire sa prière selon l'avis de la majorité des savants, et c'est l'avis prépondérant dans cela. Donc ici, on va donner un exemple. On a une personne qui porte son enfant avant la prière de Dhuhr. Et subhanallah, cet enfant-là, il lui urine dessus, qaddarallah ou mashafa'al. Qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, bi'idhnillah, avant la prière, je vais nettoyer la souillure. Je vais l'enlever avec de l'eau, bi'idhnillah. Il oublie, il va à la prière de Dhuhr. Il rentre à la maison et sa femme lui dit « Ya Foulan, t'as prié avec ce vêtement, tu l'as pas lavé alors qu'il y a une trace d'urine dessus. » On lui dit « Ta prière, elle est valide. Elle est sahiha. » Et ça, c'est ce qui est arrivé au temps du prophète Aïssa Otsem. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait avec ses compagnons et Jibril est venu l'informer qu'il y avait une souillure sur sa sandale. Il a alors enlevé ses sandales pendant la prière. Et ensuite, après la prière, il a informé ses compagnons qu'il y avait une souillure donc sur sa sandale. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas recommencé ce qu'il avait déjà commencé comme prière. Donc c'est cela la preuve. Quant à celui, Yahya, qui se rappelle qu'il a une souillure pendant la prière, ça son cas il est différent. soit il l'enlève directement, il enlève directement son vêtement s'il le peut, comme il l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit il sort de la prière, il nettoie l'impureté ou la souillure et ensuite il recommence sa prière. C'est clair, bien. La cinquième différence. L'impureté annule les ablutions. L'état d'impureté, on va dire, le hadath annule les ablutions. Par exemple, l'urine, le fait d'uriner. Le fait d'uriner annule les ablutions. Le fait de déféquer annule les ablutions. Le fait d'éjaculer annule les ablutions. Quant à la souillure, elle n'annule pas les ablutions, yaïkhoa. Et ça, subhanallah, surtout pour les femmes qui changent. Qui change les enfants. Des fois, subhanallah, l'urine de l'enfant les touche et elles refont, par exemple, leurs ablutions. Il faut savoir que lorsqu'une impureté touche un vêtement ou autre, ce qu'il est obligatoire de faire, c'est quoi? C'est d'enlever cette souillure. Mais elle est toujours en état d'ablution. Ensuite, le deuxième point. Al-mas'atu al-thaniyatu. L'eau avec laquelle on acquit la purification. أي على صفته التي خلق أو خلق عليها وسواء كان نازلا من السماء كالمطر والذوب والثلوج والبرد أو جاريا في الأرض كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار. Donc, hey, écoute, la purification, elle a besoin d'une chose avec laquelle on se purifie et avec laquelle on enlève la souillure. Et cette substance est... Donc c'est l'eau. Et l'eau avec laquelle on acquit la purification est l'eau pure, at-tahour. Il faut bien faire ici comprendre qu'at-tahour, c'est quoi? C'est l'eau qui est pure en elle-même et qui purifie. C'est-à-dire qui est purifiante. Et c'est celle qui est restée sur son apparence de base, sur la caractéristique dont elle a été créée. Qu'elle soit parmi celles qui descendent du ciel, comme par exemple la pluie, la neige et la grêle, ou celles qui circulent sur la terre, comme l'eau des fleuves, l'eau de source, l'eau de puits, des puits, et l'eau de la mer. Et ce, en vertu de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, dit également, traduction du sens du verset, وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. C'est-à-dire, et du ciel, il fit descendre de l'eau sur vous afin de vous en purifier. Ainsi que sa parole, traduction du sens du verset, nous fîmes descendre du ciel une eau pure et purifiante. Ainsi que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Oh Allah, lave-moi de mes péchés par l'eau, la glace et la grêle. » Ainsi que sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il mentionna l'eau de la mer, il dit, c'est celle dont l'eau est pure et dont les animaux, même morts, sont licites. Ils nous disent ensuite, وَلَا تَحْصُلُ الطَّهَارَةُ بِمَائِعٍ غَيْرِ الْمَائِ كَالْخَلِّ وَالْبَنْزِينِ وَالْعَصِيرِ وَالْلِمُونِ وَمَا شَابَهَ ذَلِكَ لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فلو كانت الطهارة تحصل بماء غير الماء لنقل عادم الماء إليه ولم ينقل إلى التراب. Et la purification ne peut se faire avec un liquide autre que l'eau. Ici, lorsqu'on parle ici pour nous de la purification, on ne parle pas de le fait d'enlever la souillure. Parce qu'on a dit que dans ça, la souillure, elle peut s'enlever avec toute substance pure. Ici, on parle de l'eau d'eau. Donc, avec le vinaigre, l'essence, le jus, le citron et eau. Donc, tu ne peux pas faire tes ablutions avec ces choses-là. Tu peux pas faire tes ablutions avec de l'essence. Ou avec du vinaigre, du jus ou du thé ou autre. Il faut que ce soit de l'eau. Le troisième point, il nous dit وَالْمَسْأَةُ الثَّالِثَ الْمَاءُ إِذَا خَالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ الْمَاءُ إِذَا خَالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ فَغَيَّرَتْ أَحَدَ أَوْصَافِهِ الثَّلَاثَةِ رِيحَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ لَوْنَهُ فَهُوَ نَجِسٌ بِالْإِجْمَاعِ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فَلَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَلَا يُزِيلُ الْخَبَثَ سَوَاءٌ كَانَ كَثِيرًا أَوْ قَلِيلًا أَوْ إِنْ خَالَطَتْهُ النَّجَاسَةُ وَلَمْ تغير أحد أوصافه فإن كان كثيرا لم ينجس وتحصل الطهارة به وأما إن كان قليلا فينجس ولا تحصل الطهارة به نعم وحد الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر والقليل ما دون ذلك ici le quatrième point c'est l'eau qui se mélange donc à une substance impure. C'est l'eau qui se mélange à une impureté. Si une souillure se mélange à l'eau et change une de ces trois caractéristiques, déjà il faut savoir que l'eau possède trois caractéristiques ijma'an, selon l'unanimité des savants. L'eau possède, donc parmi ses caractéristiques, c'est qu'elle a une odeur, un goût, et une couleur. Donc si une souillure se mélange à l'eau et change une de ces trois caractéristiques, elle devient alors impure selon l'unanimité des savants, que cette eau soit en petite ou en grande quantité. Et donc il est interdit à partir de ce moment-là de se purifier avec celle-ci ou d'enlever les souillures. Donc si par exemple une souillure se mélange à de l'eau, qu'elle soit en petite ou en grande quantité, et qu'elle change une de ces trois caractéristiques, elle devient alors impure. Tandis que si l'impureté se mélange à l'eau, mais ne change pas une de ces trois caractéristiques, et que cette eau est en grande quantité, alors, à ce moment-là, elle ne devient pas impure selon la majorité, selon l'unanimité des savants. Donc on a la première chose. Si une impureté se mélange à de l'eau en grande ou en petite quantité et qu'elle change une de ces trois caractéristiques, elle devient impure, selon l'unanimité des savants. Si une impureté se mélange à de l'eau qui est en grande quantité et ne change pas une de ces trois caractéristiques, elle reste pure et purifiante, selon l'unanimité des savants. Il nous reste maintenant... il nous reste maintenant le fait si maintenant on a... Donc, une impureté qui se mélange à une petite quantité d'eau, mais ne change pas une de ces trois caractéristiques. Et c'est ici que les savants ont divergé en deux paroles, en deux avis. Certains parmi les savants ont dit que, donc, cette eau devient impure, même si une de ces trois caractéristiques n'a pas été changée. Et la preuve de cela... C'est, il se base donc sur le hadith d'Ibn Umara radiallahu anhu qui dit إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِي الْخَبَثِ Donc si l'eau atteint les deux jarres, elle ne devient pas impure. Donc ils ont dit quoi? Ils ont dit qu'on comprend par ce hadith que l'eau qui atteint deux jarres, c'est l'eau qui est en grande quantité. Et ce qui est en dessous de deux jarres, c'est-à-dire 160 litres à peu près, eh bien, c'est une petite quantité. C'est une petite quantité d'eau. Le problème, c'est que ce hadith, si on le prend de cette manière-là, c'est-à-dire que si l'eau atteint une grande quantité, donc s'il atteint une grande quantité, elle ne devient pas impure. Si on prend ce hadith-là d'Ibn Umar, il contredit un quoi ? Un consensus qu'on a mentionné maintenant. Et c'est quoi le consensus que ce hadith contredit ? C'est on a dit que si maintenant une impureté... se mélange à une eau qui est en grande quantité ou en petite quantité et qu'elle change une de ces trois caractéristiques, elle est quoi ? Impure de selon l'unanimité des savants. Donc ce hadith-là contredit contredit ce ijma. Donc les savants, ils ont dit quoi ? L'autre avis, ils ont dit que si l'eau Donc si une impureté se mélange à de l'eau en petite quantité et qu'elle ne change pas une de ses trois caractéristiques, elle reste pure et purifiante. Yanni, ici, on prend en considération quoi ? Le changement des caractéristiques. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna al-ma'a tahurun la yunajisu shay ». L'eau est certes pure et purifiante et rien ne la souille. Et donc, bi'idhnillah, ça c'est l'avis prépondérant, incha'Allah. Donc, pour résumer, ya ikhwa, cette mas'ala, on va dire que si une souillure se mélange à l'eau, qu'elle soit en petite ou en grande quantité, et qu'elle change une de ses trois caractéristiques, elle devient impure selon l'unanimité des savants. Si une impureté se mélange à de l'eau qui est en grande quantité et ne change pas une de ses trois caractéristiques, elle reste pure et purifiante selon l'unanimité des savants. Et si une impureté se mélange à de l'eau et qu'elle ne, en petite quantité et qu'elle ne change pas une de ses trois caractéristiques, l'avis prépondérant, c'est que l'eau reste pure et purifiante. Et on a mentionné la preuve de cela, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna al-ma'a tahurun la yunajjisu shay. L'eau est certes pure et purifiante et rien ne la rend impure. Et il y a, je crois, ça c'est l'avis de l'imam Malik, rahimahullah, de Ibn Taymiyyah, d'Ibn al-Qayyim, d'Ibn Baz, d'Ibn Uthaymin et de notre cheikh Suleyman, ar-Ruhayni hafidhahullah ta'ala. J'espère que c'est compris, je crois. Quatrième point. المسألة الرابعة الماء إذا خالطه طاهر. Donc ici nous allons voir l'eau qui se mélange à une matière pure. Ils nous disent si une matière pure se mélange à de l'eau, telle que les feuilles des arbres, du savon, du cidre et d'autres matières pures que celle-ci, et que cette matière ne prend pas le dessus sur l'eau, alors l'avis prépondérant, c'est que cette eau est pure et purifiante. Et il est permis de se purifier avec celle-ci des impuretés et des souillures. Et croyez-le, comme nous, au début, on a dit que, là maintenant, pour nous, quand on lit cela, ça concerne quoi les ablutions et les grandes ablutions? Ça ne concerne pas le fait d'enlever les souillures. Parce que nous, on a dit que l'avis prépondérant sur le fait d'enlever les souillures, c'est quoi? C'est que les souillures peuvent s'enlever avec toute substance qui est pure. Donc ici, eux, quand ils parlent, ici, eux, ils parlent de quoi? Du fait d'enlever quoi? Du fait d'utiliser cette eau-là pour les ablutions et pour le fait d'enlever les souillures. Mais nous, automatiquement, quand on lit cela, nous, on est déjà d'avis que cette eau-là peut enlever les souillures. Donc il s'argumente donc de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, traduction du sens du verset, et si vous êtes en état d'impureté majeure, alors purifiez-vous, yani par un bain. Mais si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure, passez-en sur vos visages et sur vos mains. Ici, ils disent que le mot « eau » dans ce verset est indéfini. Yani, « nakira fi siyaq nafs », c'est-à-dire qu'il est indéfini et rapporté dans un contexte de négation. Cette chose-là, dans la langue arabe, yani, khoa, quand on dit « nakira fi siyaq nafs », ça veut dire automatiquement que cela implique une généralité, c'est-à-dire tout type d'eau. « Ma'an » ici, il est indéfini, qui vient dans un contexte de quoi ? De négation. Donc automatiquement, ça implique toutes sortes d'eau. Que ce soit l'eau qui est pure ou l'eau qui est mélangée à certaines matières, comme nous avons mentionné précédemment, par exemple, comme les feuilles des arbres, du savon, du cidre et d'autres matières pures. Et pour répéter, Yahya, encore une fois, les ablutions, par exemple, el-hadath, que ce soit l'impureté mineure ou majeure, il faut obligatoirement ôter cette impureté-là avec de l'eau pure. Par exemple, si on le fait avec du thé, Le thé, il est pur. Mais on ne peut pas le faire. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas de l'eau. Même si le thé, subhanallah, il contient plus d'eau que du thé. Ceci dit, le thé, le nom du thé a pris le dessus sur le nom de l'eau. Donc on ne peut plus faire les ablutions avec. Mais on a dit que l'avis prépondérant, c'est que pour le fait d'enlever, concernant le fait d'enlever une souillure, on a dit qu'on pouvait utiliser toute substance pure. Et ça, on a dit que c'était l'avis prépondérant. Et parmi les hadiths qu'il mentionne dans cela, il dit aussi en vertu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit aux femmes qu'il avait sa fille Zaynab après sa mort, lavez-la 3 ou 5 fois ou même davantage si vous le jugez utile, avec de l'eau pure, puis avec de l'eau mêlée de feuilles de jujubier. Et au dernier lavage, mettez dans l'eau un peu de camphre. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé pour purifier les femmes, il a dit aux femmes d'utiliser donc pour purifier et pour laver donc sa fille de l'eau mélangée à une substance. Le cinquième point, le jugement de l'eau qui a été utilisée pour les ablutions. Et pourquoi il mentionne ici ce sujet-là? Parce que c'est le madhhab chez le Hanabila. Donc, hukmul ma'i al-musta'mali fi at-taharati. Il nous dit الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل طاهر مطهر لغيره على الصحيح يرفع الحدث ويزيل النجس ما دام أنه لم يتغير منه أحد أوصافه الثلاثة الرائحة والطعم واللون. L'eau qui a été utilisée pour les ablutions, comme l'eau qui tombe des membres de celui qui fait ses ablutions ou qui se lave. Par exemple, lorsque vous faites vos ablutions, il y a de l'eau qui tombe. Et à l'époque, il n'y avait pas comme nous. Nous, maintenant, la plupart, ils font les ablutions dans un lavabo. Ceci dit, eux, ils le faisaient dans des bassines ou autres. Donc, l'eau, automatiquement, elle tombait où? Elle tombait dans cette bassine ou dans ce récipient. Donc, cette eau-là qui tombe des membres, lorsque la personne fait ses ablutions, est pure et elle purifie selon l'avis le plus juste des savants. Elle purifie de l'impureté et enlève la souillure tant qu'une de ces trois caractéristiques ne change pas. L'odeur, le goût et la couleur. Et la preuve de cela, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait ses ablutions, les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se bousculaient pour prendre l'eau de ses ablutions car elle contenait une bénédiction. Et il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a versé l'eau de ses ablutions sur Jabir lorsqu'il était malade. Et si l'eau était impure, il ne serait pas permis de le faire. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons et ses femmes faisaient leurs ablutions dans de petits récipients et se lavaient dans des bassines. Et de cette manière, on ne peut pas échapper aux éclaboussures qui tombent dans l'eau. Et en vertu aussi de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le croyant n'est pas impur. Et s'il en est ainsi, l'eau ne perd pas de sa pureté rien qu'en la touchant. Donc ça, c'est l'avis prépondérant dans ce sujet-là. Et le sixième et dernier point, As'aru al-adamiyin wa bahimati al-an'am. Donc nous allons voir ici la salive des êtres humains et des bestiaux. Donc la salive, qu'est-ce qu'on entend par la salive? C'est ce qui reste dans le récipient après que la personne ou l'animal ait bu dedans. Et il faut savoir que l'être humain est pur et sa salive l'est aussi. Qu'il soit musulman ou mécréant. Tout comme celui qui est en état d'impureté majeure ou la femme qui a ses menstrues. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme nous l'avons vu précédemment, le musulman ne devient pas impur. Et il a été rapporté que Aïcha radiallahu anha buvait dans un récipient alors qu'elle avait ses menstrues. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait alors ce récipient et il mettait sa bouche à l'endroit où Aïcha radiallahu anha avait mis la sienne.
Donc les savants sont unanimes quant à la pureté de la salive des animaux dont il nous est permis de manger la viande, parmi les bestiaux et autres. Donc les savants sont unanimes quant à la pureté de la salive des animaux dont il nous est permis de manger la viande. Donc parmi les bestiaux et autres. Quant aux animaux dont il nous est interdit de manger la viande, tels que les animaux féroces, c'est-à-dire les prédateurs, l'âne et autres que ceux-ci, l'avis prépondérant est que leur salive est pure. Et elle n'a pas d'impact sur l'eau, et surtout si l'eau est en grande quantité. Mais si l'eau est en petite quantité et qu'une de ces trois caractéristiques change à cause de la salive de cet animal dont on ne peut manger la viande, donc à ce moment-là, l'eau devient impure. Donc si elle est en petite quantité. Et la preuve de cela est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fut interrogé au sujet de l'eau à laquelle s'abreuvent les bêtes et les fauves. Il dit alors, si l'eau atteint le volume de 2 jars, elle ne peut être souillée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant le chaton, alors qu'il but dans le récipient, il dit, il n'est pas impur. Il fait simplement partie de ceux et celles qui viennent et se mêlent à vous. Et la raison de cela, c'est qu'il est difficile d'éviter cela de manière générale. Parce qu'à l'époque, les animaux étaient présents à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas comme à notre époque. Et ils ne vivaient pas dans des maisons fermées où il y avait une porte comme chez nous maintenant. Et n'importe quel animal pouvait rentrer. Et donc, il dit, l'auteur, il est difficile d'éviter cela de manière générale, et si nous avions considéré leur salive comme étant impure, et qu'il fallait laver obligatoirement les choses, les récipients et autres, il y aurait eu dans cela une difficulté, et la difficulté est certes levée pour cette communauté. Quant à la salive du porc et du chien, il faut savoir que elles sont impures. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Tuhuru ina'i ahadikum idha walagha fihi al-kalb an yaghsilahu 7 marrat ou lahunna bit-turab. La purification du récipient de l'un d'entre vous lorsque le chien a léché dedans est obtenue en le lavant 7 fois, la première d'entre elles avec de la terre. Et quant au porc, yani, il est impur et sa salive est impure en raison de sa malpropreté et son extrême impureté. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullahu khairan.